Chapitre 10 Le trou du souffleur. Après s'être confortablement lesté, Chantecoq et Météore allaient maintenant s'occuper de choses un peu plus sérieuses. « Allez sur toute cette vaisselle !» décidait le roi des détectives. « Nous nous en occupons demain. Remontons dans nos chambres. Faisons semblant de nous coucher. Remettons les tenues que j'ai préparées et redescendons ensuite explorer le puits, pour j'espère bien que nous allons voir sortir la vérité toute nue. » Ce qui fut dit fut fait. Au bout d'une heure environ, après avoir constaté, en passant près de sa porte, que la nounou ronflait consciencieusement, et même en mesure, le limier et son collaborateur, qui débarrassés de leur postiche, avaient revêtu l'un et l'autre les maillots et cuirasses de protection que nous avons décrits plus haut, regagnèrent les sous-sols. Leurs masques contre les gaz asphyxiants pendaient le long de leur poitrine, attachés à leur cou par une solide chaînette en acier. Ils portaient chacun une ceinture de gymnastique toute noire et munie d'un anneau en acier bruni. À cette ceinture était fixé un couteau enfoncé dans une gaine en cuir et un pistolet de forme spéciale et à crosse assez volumineuse. Chantecoq portait à la main un petit colis enveloppé dans du papier. Météore, l'échelle de soie que nous lui avons vu préparer dans l'après-midi. Marchant sur des sandales de même ton que les maillots, ils atteignirent sans bruit le puits qui allait être l'objet de leurs investigations. Chantecoq ouvrit son paquet. Il contenait deux lampes électriques montées sur un cercle, telles que s'en servent les médecins pour vous examiner le fond de l'oreille, du nez ou de la gorge. Il se coiffa de l'une et remit l'autre à Météore, qui s'en coiffa également. Alimentées toutes les deux par des piles assez puissantes que le grand détective et son secrétaire portaient sur eux, elles répandaient autour d'elles une vive lumière qu'un contact suffisait à éteindre ou à allumer. Chantecoq s'empara de l'échelle. Après l'avoir fixée sur la margelle à l'aide de deux solides crampons d'acier, il la laissa se dérouler jusqu'au fond du puits. « Je vais aller voir un peu ce qu'il y a là-dedans, » dit-il. « Toi, tu vas rester là en observation, et tu ne me rejoindras que lorsque je t'appellerai. »« Compris, patron, » répliqua le secrétaire. Après avoir vérifié si les crampons mordaient bien dans la pierre, Chantecoq, avec une souplesse que bien des hommes de 30 ans et même moins lui eussent enviée, franchit le rebord du puits et descendit sans précipitation quelques échelons. À la clarté de sa lampe, dont un réflecteur à l'habile dispositif intensifiait et diffusait la lumière, le détective constata que la plaque de tôle qu'il avait déjà repérée contre la paroi du puits était montée sur deux charnières, ce qui prouvait qu'elle servait de porte à un conduit souterrain, ainsi qu'il l'avait si justement pronostiqué. Mais elle ne portait aucune trace de serrure. Ce qui frappa d'abord encore davantage le policier, c'est qu'il lui parut que cette tôle était relativement menue, et qu'en tout cas, elle avait été récemment posée, ainsi que le prouvaient certaines dégradations plutôt fraîches des pierres dans lesquelles les gonds avaient été encastrés et cimentés. Le grand limier pensa « Oh, on doit certainement faire fonctionner ce panneau à l'aide d'un mécanisme secret. Mais inutile de passer notre temps à la recherche d'un rébus quand on peut faire autrement. Lorsque j'étais au lycée, j'avais toujours pour principe d'obtenir la solution des problèmes que l'on me donnait, non point par les règles de l'arithmétique, mais par celles de l'algèbre. Cela avait le don de me valoir les observations les plus sévères de la part de mes professeurs, mais l'avantage de me faire gagner un temps précieux que je pouvais consacrer à des travaux beaucoup plus intéressants et profitables. En matière de police, c'est la même chose. Il faut toujours choisir le moyen qui va vite. Allons-y !» Le roi des détectives saisit dans une sorte de trousse qui qui adhéraient à son maillot, un ciseau à froid de petite dimension et d'une certaine finesse, mais qui devait être d'une trempe à toute épreuve. Il le glissa sous l'une des charnières et exerça sur le manche une très forte pression. La charnière résista. « Oh, c'est de la bonne camelote !» se dit le limier. Ben « Allons, nous allons employer les grands moyens !» Il plongea de nouveau la main dans sa trousse et en retira cette fois un petit carton qui renfermait une fiole bouchée à l'émeri et un compte-gouttes. En équilibre sur son échelle, et fort à son aise d'ailleurs, il déboucha le flacon, y introduisit le compte-gouttes, le remplit d'un liquide clair et fluide qui dégageait une odeur bizarre, reboucha la fiole qu'il replaça dans sa boîte puis dans la trousse, introduisit la pointe du compte-gouttes dans un des joints de la charnière et appuya sur la poire en caoutchouc qui terminait l'autre extrémité du tube en verre. Un léger grésillement, celui d'un puissant corrosif, mordant du métal, se fit entendre. Chantecoq eut un sourire satisfait. Puis il murmura « Oh, mon ami d'Armont, le grand chimiste, m'avait pas bluffé. Sa formule est excellente. » Chantecoq envoya son compte-gouttes, absolument vide, rejoindre le flacon qu'il avait déjà replacé dans sa boîte. Puis, s'emparant de son ciseau, il exerça sur le gond déjà attaqué une nouvelle et vigoureuse pesée. Cette fois, la charnière céda. Le limier recommença sur la seconde la même opération qui réussit aussi bien que la première. Introduisant alors la lame de son ciseau entre le mur et la plaque, il s'efforça d'écarter celle-ci. Après quelques minutes d'effort, il avait pratiqué une ouverture à travers laquelle il réussit à passer un bras. Tout en tâtonnant, il finit par trouver, derrière la tôle gondolée, un verrou qu'il poussa. La plaque, qui ne pouvait donc être ouverte que par des gens venant du dehors, se détacha et serait tombée dans le puits si fort adroitement son coq ne l'avait retenue. Cela fait, il remonta jusqu'à la margelle et remit le morceau de métal à Météore qui se penchait vers lui. « J'ai découvert l'entrée du souterrain, » déclara-t-il. « Il s'agit maintenant d'en commencer l'exploration, et c'est ce que je vais faire. » Le secrétaire s'écriait. « Alors bien vrai, patron, vous voulez pas que je vous accompagne ?» Chantecoq réfléchit quelques secondes, puis il fit. « Oui, soit. Oh, chouette. Mais d'abord, fais-moi le plaisir d'aller cacher cette plaque de tôle dans la soute au charbon. »« Bien, patron. » Ensuite, tu donneras un tour de clé à la porte qui commande les sous-sols et tu cacheras cette clé dans la cendre qui se trouve dans l'un des tiroirs du fourneau de la cuisine. C'est tout, patron? Oui, c'est tout. Va et dépêche-toi. Cette dernière recommandation était d'ailleurs superflue. Nul, en effet, ne savait déployer plus d'agilité, plus de souplesse, plus de virtuosité dans ses mouvements que le jeune et remarquable collaborateur du célèbre limier. Il surgissait, virevoltait, disparaissait, reparaissait, s'évaporait avec une facilité qui tenait du prodige. D'où ce surnom de météore dont l'avait gratifié son maître, et nul plus que cet extraordinaire garçon ne l'avait mérité. Chantecoq, les pieds sur l'échelon, n'attendit pas longtemps. Météore revenait annonçant. « Ça y est, tout est en ordre. » Le roi des détectives redescendit jusqu'à la hauteur de l'excavation qu'il venait de découvrir. Il s'y faufila à l'aide d'un rétablissement qui démontrait qu'il avait longtemps pratiqué la gymnastique et qu'il était encore fort remarquablement entraîné dans ce genre de sport. Copiant tous les mouvements de son patron, Météore dégringola l'échelle et s'engouffra à son tour dans le trou. Chantecoq avançait en rampant. Le couloir s'élargissant au bout de quelques mètres, Il se mit d'abord sur les genoux, puis il put se redresser sur ses jambes et marcher normalement, sans risquer de se heurter la tête à la paroi supérieure de ce véritable souterrain qui avait été creusé dans le roc. Suivi par Météor, il franchit environ une centaine de mètres. Grâce au rayonnement de sa lanterne électrique dont il dirigeait librement le projecteur, il pouvait examiner attentivement le sol qu'il foulait aux pieds ainsi que les parois qu'il coudoyait. Il n'avait rien remarqué d'anormal lorsque tout à coup un objet brillant attira son attention. Il se pencha pour le ramasser. C'était une bague en platine bordée d'un très beau brillant d'une eau magnifique. Le détective l'examina de très près. Bientôt, il eut un cri de satisfaction. « Oh, oh !» se dit-il, « mais je crois que je viens de faire une importante découverte !» La bague, en effet, portait à l'intérieur de sa monture la marque du grand joaillier Logeron de la place Vendôme, et près de la signature, gravé dans le cercle en platine, le limier lut ce chiffre, numéro 2367R. Le roi des détectives, qui avait eu à maintes reprises l'occasion de s'occuper d'affaires de bijoux dérobés, savait que cette célèbre maison, ainsi d'ailleurs que plusieurs autres, avait pris l'habitude de numéroter chacun de ses bijoux, ce qui pouvait, en cas de vol, faciliter les recherches des policiers. Chantecoq, qui était en excellente relation avec la maison Logeron, se dit « Eh bien, demain, je n'aurai qu'à téléphoner au directeur. Il me donnera les renseignements nécessaires. » Et il conclut « Oh, ça, c'est une belle victoire. Alors, mon flair, comme toujours, ne me trompait pas quand il me disait que j'aurais vite fait de débrouiller cette énigme. » Il fut sur le point de rebrousser chemin, mais tout autre que lui se fut contenté, en effet, de cet important avantage. Après une journée aussi remplie, Chantecoq aurait eu parfaitement le droit de faire demi-tour et de réintégrer la villa Carivette afin d'y goûter un repos bien gagné, mais il n'était pas de ceux qui se contentent d'un premier succès, si grand soit-il. Il tenait toujours à pousser les choses jusqu'au bout. Ce n'était pas pour lui une raison, parce qu'il avait découvert dans ce souterrain ce véritable anneau de Sésame qui allait lui ouvrir toutes grandes les portes de la vérité, pour qu'il en abandonnât l'exploration ou qu'il la remît au lendemain. Parmi les principes qui réglaient ses actions, il en était un auquel il avait toujours été fidèle, battre le fer tant qu'il est chaud. Voilà pourquoi, toujours suivi par Météor, il continua sa route. « Si je ne me trompe pas, se disait-il, ce couloir doit aboutir non loin de ce gouffre dénommé le trou du souffleur. » Et qui sait, peut-être dans le gouffre même. Alors attention, Chantecoq et Météor franchirent encore une centaine de mètres. Alors le couloir commença à s'infléchir sensiblement en une descente assez rapide. Nous approchons, se dit le grand limier. C'est le moment d'ouvrir l'œil ou jamais. Déjà, ils entendaient le bruit de la mer qui, à une faible distance, devait battre les flancs de la célèbre grotte. Dominant le grondement continu des flots, par intervalles irréguliers, s'élevaient des mugissements semblables à de douloureux sanglots ou des sifflements stridents comme des cris de rage, déchirants comme des appels de détresse. Chantecoq fit tout haut. « Eh bien, voilà ce qu'ont dû entendre les hôtes de Kerivette !» Météor observait. « Patron, vous croyez qu'à une pareille distance ?»« Météor, mon ami, répliquait le limier, tu as d'assez bons cuistots, mais tu as bien mauvais physicien. Si tu avais quelque peu étudié cette science, tu saurais qu'un couloir tel que celui dans lequel nous sommes forme une sorte de tube acoustique, extrêmement puissant, qu'il n'y a rien de surprenant à ce que M. Lachesnais et son entourage Est entendu ce terrible concert lorsque la plaque de tôle qui fermait l'autre extrémité du tuyau était ouverte. Oh, patron, admirait sincèrement Météor, mais vous savez tout et vous avez toujours raison. Shuttlecock se remit en marche, mais cette fois il ne fit que quelques pas. Le couloir, après avoir formé un coude en angle droit, s'arrêtait net devant un escalier aux marches taillées dans le roc et qui s'enfonçait dans la nuit. Le détective et son collaborateur allaient s'engager dans l'escalier lorsque, soudain, à environ 20 mètres au-dessous d'eux, une lueur flamba haut, rapide comme un éclair, suivie d'une détonation sèche comme un coup de fouet vigoureux. Une balle siffla aux oreilles de Shuttlecock et s'en vint s'aplatir dans le roc à la hauteur de la tête. À terre! S'écria le policier en éteignant sa lanterne. Tout de suite, il se dit: Oh, mes brigands se sont aperçus de la disparition de la bague et ils sont venus la chercher. Alors, ils auront aperçu la lumière de nos lampes. Ils auront tiré dans leur direction, quand il aurait été si facile de nous attendre dans l'ombre, au pied de l'escalier, et de nous faire notre petite affaire en cinq secs, et sans risquer d'être dérangé par personne. Mais maintenant, les voilà en état d'infériorité sur nous, car de deux choses l'une, ou ils vont avancer, et comme ils ne pourront pas le faire à tâtons, la lumière avec laquelle ils sont obligés d'éclairer les trahira infailliblement, ou ils décarbureront, et c'est encore ce qu'ils auraient de mieux à faire. Conclusion, bien voyons venir. Shuttlecock saisit le pistolet de forme bizarre qui était accroché à sa ceinture et patiemment, le doigt sur la détente, il attendit les événements. Bientôt, en contrebas, il vit briller une petite lumière très atténuée. On eût dit une étoile se mirant dans l'eau. Peu à peu, cette lumière grandit, se précisa. C'était celle d'une lampe électrique, moins puissante que celle que le détective et son secrétaire portaient encastrée dans les cercles qui leur entouraient la tête. Shuttlecock ne broncha toujours pas. Quant à Météore, qui continuait à calaquer la moindre de ses attitudes sur celle de son patron, il ne bougea pas davantage. Maintenant, la lumière montait, s'approchait lentement, s'arrêtait par instants, reprenait sa course de feu follet au ralenti. Lorsqu'elle ne fut plus qu'à une dizaine de mètres environ du détective, le limier, qui était resté à plat ventre, alluma brusquement sa lampe, dont le réflecteur était dirigé de telle sorte qu'il en concentrait le rayonnement sur l'escalier. Le roi de détective aperçut alors, debout sur l'une des marches, deux hommes vêtus comme lui d'un maillot noir, masqués et tenant l'un une lampe électrique de poche et l'autre un revolver. Le premier n'eut pas le temps d'éteindre son lumignon et le second de faire usage de son arme. Avant qu'ils n'aient eu le temps de revenir de leur surprise, Shuttlecock appuyait par deux fois sur la détente de son étrange pistolet, et bien qu'aucune détonation ne se fût entendre, les deux hommes tombaient à la renverse, dégringolaient les marches de l'escalier et disparaissaient dans les ténèbres. Presque en même temps, un double plouf parvenait aux oreilles du limier et de son acolyte, indiquant clairement que leurs deux agresseurs venaient d'exécuter un plongeon simultané dans une eau profonde. Allons bon, s'exclama Shuttlecock, pourvu qu'ils ne soient pas noyés. Et il ajouta: Ce serait vraiment pas la peine d'avoir inventé un pistolet grâce auquel on peut annihiler les adversaires sans leur faire aucun mal, pour que ceux-ci, que j'ai tant d'intérêt à connaître, se trouvent subitement emportés dans un monde d'où, jusqu'à plus ample informé, personne n'est encore jamais revenu. Enfin, nous allons bien voir. En bas, les mugissements et les cris continuaient toujours, accompagnés par la basse profonde de la mer. Sans la moindre hésitation, Chantecoq s'engagea dans l'escalier, suivi par Météore, qui lui aussi avait rallumé sa lampe. Ils atteignirent ainsi une grotte souterraine où, par une large fente, l'eau de la mer arrivait à gros bouillons. Le fracas était formidable. Chantecoq et Météore braquèrent leurs projecteurs vers le gouffre. À leurs pieds, c'était un remous d'eau formidable aussi. Aucun corps n'apparaissait à la surface. Ils avaient dû être immédiatement entraînés au fond de l'abîme, soit par un courant qui, du côté opposé à la brèche par où pénétrait le flot de la marée montante, se précipitait, tumultueux, dans la direction d'une autre caverne souterraine à laquelle il était naturellement impossible d'accéder. Chantecoq se dit « Eh bien, en attendant, voici le mystère du trou du souffleur dissipé. » Cette grotte servait d'entrée à ce passage secret que nous venons de parcourir et qui faisait communiquer au siècle passé le vieux fortin avec la mer. De la côte, on y pénétrait à marée basse et pour en sortir, on attendait que la marée haute se fût retirée. Maintenant, pourquoi les pauvres diables qui ont cherché à explorer le trou du souffleur n'en sont-ils jamais revenus? Ben, c'est bien simple. Lorsque, profitant de ce que le flot était encore loin, ils s'engageaient dans la grotte et qu'ils arrivaient à cette fente qui donne accès au gouffre dans lequel nos deux ennemis viennent de piquer si malencontreusement une tête, ou bien un violent courant d'eau éteignait leur falot, et en tâtonnant dans l'obscurité, ils dégringolaient dans l'abîme, ou bien, glissant sur le varech humide, avant d'avoir pu se raccrocher à quelque aspérité de rocher, il faisait dans l'eau une culbute finale. Donc les deux gaillards que je viens tout à l'heure, bien malgré moi, d'envoyer rejoindre les aventureux touristes, pêcheurs et autres qui avaient commis l'irréparable imprudence de chercher à violer ce secret de la nature, devaient être prêts au courant des dangers qu'ils couraient en s'aventurant dans un endroit aussi redoutable. Et ils avaient par conséquent pris toutes les précautions nécessaires, puisque par deux fois, ils ont réussi à gagner Ker Rivette sans en encombre, la première pour s'y livrer aux exercices fantomatiques les plus variés, et la seconde pour enlever ce pauvre petit Jackie. Se croyant sur deux, ils ont voulu remettre cela une troisième fois, mais là, ils sont tombés, non pas sur le bec de gaz, que je n'étais pas sans douter pour moi-même, car il faut jamais être trop sûr de soi, mais sur ma lampe électrique, grâce à laquelle j'ai pu décharger sur chacun d'eux un coup de mon pistolet somnifère. Mais, par exemple, je n'avais pas prévu qu'il existait au bas de cet escalier un ravin sans fond pour les recevoir. Et il est certain qu'il eût beaucoup mieux valu que je l'ai prise vivant. Ben, à comment m'apitoyer sur ces deux immondes fripouilles qui ont déjà expié leur crime et d'autres avec probablement, n'ai-je pas cette précieuse bague qui, mieux que tout, va me donner l'adresse du coupable que je recherche. Et, se retournant vers Météore, qui se tenait debout à ses côtés, regardant fixement la nappe d'eau bouillonnante sous les reflets des lampes que diffusaient les projecteurs des casques, le roi des détectives martela « Inutile de nous éterniser ici. Nos deux bons hommes ont dû être entraînés sous la terre par le courant. Il y a 99 chances sur 100 pour que maintenant nous ne les revoyions jamais. » Le mieux est d'aller nous coucher. » Et il ajouta gaiement, « Oh, cette fois, mon petit météore, passe le premier. C'est toi qui éclaireras la marche, et c'est moi qui protégerai la retraite. » « Bien, patron. » Météore regagna l'escalier et le remonta lentement. Chantecoq jeta sur le gouffre un dernier regard. La mer commençait à se retirer, La terrible symphonie adoucissait ses rudes accents. Chantecoq s'élança sur les talons de son secrétaire. Tous deux firent l'ascension des marches et s'engagèrent dans le couloir. Comme il approchait de l'entrée du puits, Météore, qui, étant donné l'abaissement du souterrain, avait dû, ainsi que son chef l'avait fait à l'atelier, se mettre à plat ventre, eut un cri de surprise. Hé, patron! Lança-t-il à Chantecoq qui était encore debout. Qu'est-ce qui se passe? Interrogea celui-ci. Ben, quelque chose de pas ordinaire. Quoi donc? Ben, on dirait qu'on a remis la plaque de tôle. Oh, qu'est-ce que tu me chantes là? Ben, la vérité, patron, tenez, écoutez. Météore frappa plusieurs coups de poing sur la plaque qui résonna. Oh, ça par exemple! Voilà qui est fort! S'exclamait le roi des détectives. Mais c'est même renversant! Ponctuait son secrétaire. Mais pousse le verrou! Il n'y en a pas! Alors pousse! Mais il n'y a rien à faire, patron! On dirait que la plaque a été scellée dans la muraille! Oh! Grommela Chantecoq. Oh, voilà un incident que je m'attendais guère! Et sans laisser apparaître la moindre déception, la plus petite inquiétude, il fit. Bon, ben, en attendant, il s'agit de faire demi-tour, par principe, et de sortir d'ici par où les autres sont venus. Prenons garde, observait Météore, de ne pas faire comme eux et de ne pas piquer une tête dans la flotte. Il n'y a qu'à avoir le pied marin, déclarait le limier. Et ça, je l'ai. Tu n'as qu'à me suivre et à poser les pieds où je mettrai les miens et tout ira à merveille. Chantecoq et Météore reprirent donc le chemin qu'ils avaient parcouru une demi-heure auparavant. Ils arrivèrent au gouffre sans la moindre difficulté. La mer baissait de plus en plus. La symphonie avait complètement cessé. Ils attendirent un moment que la brèche par où passait le flot fut entièrement dégagée. Ils se glissèrent le long de l'abîme sur une sorte de bordure naturelle que l'eau, à travers les siècles, avait taillée dans le roc. Tout en marchant lentement, prudemment, les jambes solidement arc-boutées, vérifiant chacun de leurs pas, grâce à la lumière que répandait autour d'elles leurs lampes, dont les piles pouvaient encore fournir un assez long rayonnement, ils atteignirent leur objectif et s'engagèrent sans hésitation dans la fente. Celle-ci formait un couloir long d'une vingtaine de mètres qui allait en s'élargissant et dont l'extrémité donnait au milieu d'un amoncellement de rochers sur lesquels se brisaient encore quelques vagues déjà beaucoup moins fortes et dont quelques-unes étaient expirantes. Chantecoq et Météore, aussitôt qu'ils avaient aperçu le reflet de la lune sur la mer, avaient éteint leurs lampes électriques, car ils pouvaient supposer, logiquement, que les deux hommes qui les avaient attaqués tout à l'heure avaient des compagnons qui les attendaient à l'entrée de la grotte. Ils continuèrent donc à avancer très prudemment, le doigt sur la détente de leurs pistolets. Ils traversèrent ainsi un espace sablonneux et rempli de flaques d'eau. Puis ils arrivèrent au quai de la falaise, à l'endroit même où aboutissait un sentier qui conduisait à ce fameux trou du souffleur dont ils venaient de sortir. Ils constatèrent qu'il n'y avait personne. Chantecoq se dit « Oh, si nous avions dû être attaqués, ce serait déjà fait !» Mais nous n'avons donc qu'une chose à faire, réintégrer immédiatement Kerivet, timidement Météore observait. C'est que nous n'avons pas les clés. Eh bien, ponctuait le roi des détectives, il va falloir réveiller la nounou, et encore, elle va nous prendre pour des revenants, et ça va plutôt faire mal dans le tableau. Ah, ça, Météore, reprenait Chantecoq, mais on dirait que les émotions que tu viens de traverser, quelque peu tourdiboler ta cervelle, voyons. Tu as donc oublié que ton patron a toujours le pouvoir de rentrer là où il veut, même lorsque les portes et les fenêtres sont hermétiquement closes. Et je t'assure qu'en admettant que tout soit fermé à Kerivet, ce dont je ne suis pas bien sûr d'ailleurs, il me sera certainement beaucoup plus facile d'y pénétrer que dans le souterrain où nous venons de vivre une heure aussi intéressante. Ils s'engagèrent dans le sentier qu'ils gravirent lestement, bien qu'il fût extrêmement abrupt et que la nuit fût plutôt obscure. À 200 mètres de là se dressait la villa Kerivet. Aucune lumière ne brillait derrière les fenêtres. Ils sont pas encore rentrés, dit Chantecoq. Oh, j'aime mieux cela d'ailleurs, car nous allons pouvoir être beaucoup plus tranquilles pour nous déshabiller et dresser le bilan de la journée. C'est égal, patron, reprenait Météore. Je ne serais tout de même pas fâché de savoir qui a bien pu remettre la plaque de tôle devant l'entrée du souterrain. Ça, c'est plutôt culotté. En effet, reconnaissait Chantecoq, c'est pas trop mal travaillé. Il est évident que ce n'a pas été fait précisément pour favoriser nos recherches, mais au contraire pour les enrayer, et peut-être même pour nous enrayer tout à fait. Il est hors de doute à présent que ces mystérieux gredins ont appris que je m'étais lancé à leur poursuite. Et malgré toutes les précautions que nous avions prises, ils nous ont repérés, moi, sous les traits du valet de chambre, Augustin, et toi de la cuisinière Armandine. Mais pour cela, patron, observait Météore, il faut qu'ils aient eu des complicités dans la place. Ben, naturellement. Ben, la nounou, parbleu. Oh, nous n'allons pas si vite. Et le détective martela. Oh, si cela pouvait être, voilà qui simplifierait joliment les choses. Mais n'anticipons pas sur les événements. Ils se précipitent d'ailleurs d'une façon assez rapide et satisfaisante pour que nous n'ayons pas besoin de les devancer. Mais qu'est-ce que tu me disais donc déjà? Météor précisa. Vous disiez, patron, que nous avions dû être repérés. Ah oui, c'est cela. Le coup de la plaque de tôle est la preuve manifeste qu'on a voulu nous prendre comme dans une souricière. Car celui ou celle qui ont réussi à la remettre en place était persuadé à coup sûr que les deux gredins auxquels nous avons fait faire une si prodigieuse et définitive culbute allaient nous coincer et probablement nous faire subir le sort malencontreux que la fatalité, enfin, qu'est-ce que je dis, la justice leur a imposé beaucoup plus qu'à nous-mêmes. En devisant, Chantecoq et son secrétaire avaient atteint Kerivet. Tout semblait reposer dans la villa, obscure et silencieuse. Chantecoq ouvrit la barrière, pénétra dans le jardinet, dont les tamaris, encore à peine sortis de terre, agitaient leurs branches frêles et menues, sous l'action d'une brise qui soufflait du large. Tous deux gagnèrent la maison. Chantecoq n'eut qu'à pousser la porte pour qu'elle s'ouvrit. Il attendit un instant, l'oreille aux aguets, et il lui sembla entendre au premier étage des plaintes assez prononcées. Tiens, tiens, fit-il à son secrétaire, tu entends? Oui, patron, oh, c'est sans doute le gosse qui est malade. Oh non, non, rectifia Chantecoq, c'est pas une voix d'enfant, mais de femme. Alors la nounou, oh, c'est probable. Nous montons voir, ne t'emballe pas et laisse-moi faire. Chantecoq et Météore montèrent à pas de loup l'escalier qui conduisait à l'étage supérieur. Notre détective s'en fut collé son oreille à la porte de la nursery. Puis il écouta attentivement les plaintes qui se poursuivaient, gênantes, étouffées. Il approcha son œil de la serrure. Oh, grommela-t-il simplement. Il venait d'apercevoir, étendue sur son lit, placée juste en face de la porte, la malheureuse âne bâillonnée et ligotée, de telle sorte qu'elle ne pouvait plus faire un mouvement, ni proférer d'autres sons que ces plaintes lancinantes et désespérantes. Regarde à ton tour, dit Chantecoq à son secrétaire. Météor obéit, puis il fit. Maintenant, il n'y a pas de doute. Cette malheureuse n'est certainement pas la complice de nos malfaiteurs. Chantecoq haussa les épaules et reprit d'un ton acerbe, qui n'était guère dans ses habitudes. Mais on peut tout de même pas la laisser comme ça. D'autant plus, complétait Météor, qu'ils ont peut-être bien barboté le loupio. Bon, ne dis donc pas de bêtises, répondit le détective avec une certaine nervosité. Allez, grimpe vite dans la chambre, te rhabiller en Armandine. Dès que tu seras prêt, tu viendras me retrouver chez moi. Dépêche-toi, parce que je crois que si nous voulons nous coucher ce soir, pas trop tard, il va falloir remettre un coup sérieux. Météor ne se le fit pas dire deux fois. Chantecoq n'a même pas même tourné le dos qu'il était déjà en haut de l'escalier. Alors, tout doucement, le limier chercha à ouvrir la porte de la nurserie. Mais elle était fermée à clé et au verrou intérieurement. Il s'en fut alors vers la chambre de M. et Mme Lachesnais, écouta et n'entendit rien. Il fit tourner la poignée de la porte. Celle-ci s'ouvrit sans difficulté. La chambre était vide, ainsi qu'il l'avait prévu quelques instants auparavant. Les Lachesnais n'étaient pas encore rentrés chez eux. Se rappelant que, lorsque, dans l'après-midi, la maîtresse de la maison lui avait fait faire le tour du propriétaire, il avait remarqué que le cabinet de toilette attenant à la chambre communiquait directement avec la nurserie, il se dit « Oh, bien il est certain que les gens qui ont ligoté et bâillonné la nounou ont passé par là. Ce qui nous confirme, une fois de plus, qu'ils connaissent parfaitement la topographie de ces lieux. » La mauvaise humeur qu'il avait manifestée pendant un moment disparut comme par enchantement. Un sourire de satisfaction entr'ouvrit même ses lèvres, et il se prit à grommeler. « Bon, alors tout va bien. Maintenant, je suis tranquille. Anne est peut-être très mal à l'aise, mais tant pis pour elle, car je parierais bien 1 000 000 contre 50 centimes que doit pas avoir grand bobo. » Il repassa dans le couloir, monta jusqu'à sa chambre où il s'enferma. 20 minutes après, grâce à son habileté à se maquiller, il était devenu un espiègle augustin. On heurtait légèrement sa porte et une voix fluette annonçait « C'est moi, votre nièce !» Chantecoq s'en fut ouvrir. C'était en effet Météor qui, conformément aux ordres de son maître, avait reconstitué impeccablement son personnage de cuisinière. « Eh bien maintenant, fit le limier, nous allons aller délivrer la nounou. Mais bien que tu te sois montré ce soir un cordon bleu fort appréciable, maintenant tu vas me laisser cuisiner tout seul cette laiterie ambulante. « Bien, patron, et qu'est-ce que je vais faire ?»« Oh, c'est bien simple. Tu vas descendre l'escalier, tu vas aller frapper à la porte d'Anne. Elle te répondra naturellement que par des plaintes qui n'ont rien d'inédit, ni pour toi, ni pour moi. Alors tu te mettras à hurler comme un putois. « mon oncle, au secours, on a assassiné la nounou !» Je m'élancerai naturellement à ton appel, on enfoncera la porte. Mais puisqu'on peut passer par la chambre de M. et Mme Lachesnais, à quoi bon faire du dégât? Mais fiche-moi la paix avec tes réflexions saugrenues. Si je te dis qu'on enfonce à la porte, c'est qu'il le faut. Alors je me précipiterai vers la victime, tu continueras à pousser des cris rauques et inarticulés, et tu n'auras à faire que ce que je te dirai. Mais quand devrais-je commencer ma sérénade? Mais tout de suite, tu devrais déjà être en haut, bas. En bas, Météor, il fit en moins de temps qu'il le faut pour le penser. Quelques secondes après, suivant son expression, il attaquait sa sérénade conformément aux instructions qu'il venait de recevoir. Inutile de dire qu'elle fut très brillamment exécutée et que le programme de Shandcock se déroula tel qu'il l'avait conçu. Moins de 2 minutes après, à la suite de plusieurs coups d'épaule qui prouvaient la parfaite robustesse de ses os et de sa musculature, Shandcock faisait dans le panneau une brèche assez large pour y passer la main et pour ouvrir le verrou qui tenait la porte fermée. Il pénétra dans la chambre. Le bébé, sous l'influence de la potion que le docteur Le Bosseur lui avait ordonnée, reposait d'un sommeil lourd et profond. La prévision plutôt fantaisiste de Météore ne s'était donc pas réalisée. Il s'approcha de la nounou, qui dirigeait vers lui des yeux suppliants et encore angoissés, et d'une voix tout apitoyée, il s'écria « Oh malheureuse, mais quels sont les bandits qui ont pu vous mettre dans un pareil état ?» Anne ne répondit pas et pour cause. Le faux valet de chambre commença par lui enlever son baillon. La pseudo-Armandine, qui était à trop bonne école pour ne pas bien jouer son rôle, gémissait « Oh mon oncle, mais c'est épouvantable, c'est épouvantable !» Feignant d'être agacé par ses criailleries, Shandcock ripostait « Mais au lieu de te lamenter stupidement, descends à la cuisine chercher du vinaigre. » « Oh non, mon oncle, je n'oserais jamais y aller toute seule. » Anne, dégagée de son baillon, commençait à respirer un peu plus à l'aise, et elle râlait « Oh, que n'y aille pas, cette fois, j'en suis sûr, c'est des revenants, c'est des revenants !» Sa tête retomba sur l'oreiller, sans doute avait-elle perdu connaissance. Shandcock, en un tour de main, la débarrassa de ses liens, qui, ainsi qu'il le constata avec un petit sourire sceptique, n'avait pas été serré outre mesure. Puis, prenant de l'eau dans un pot à eau, il commença par en bassiner le front et les joues de la nourrice. Comme elle persistait à ne pas revenir à elle, Shandcock fit signe à Météore de s'approcher et lui murmura quelques mots à l'oreille. Un éclair de malice flamba dans les yeux de Météore, qui s'éclipsa aussitôt, pour revenir 2 minutes après avec un flacon bouché à l'émery qu'il remit à Shandcock. La fiole portait une étiquette sur laquelle étaient inscrits ces mots « Alcali volatile ». Le roi des détectives déboucha le flacon dont il appuya le goulot sous les narines de la nounou qui eut un sursaut énorme accompagné d'un cri perçant. Elle se trouva subitement dressée sur son séant, éternuant à s'en fendre la tête. Météore murmura « Oh Dieu, mais il va lui faire tourner son lait !» D'une voix entrecoupée, la nounou proférait « Oh, monsieur Augustin, qu'est-ce que vous m'avez fait respirer là ?» Imperturbablement, Shandcock répliquait « Oh, ce sont des sels qu'Armandine a trouvés dans la chambre de madame. » La nourrice appréciait « Mais il y a de quoi réveiller un mort avec ça !»« Mais c'est ce qu'il faut !» affirmait Augustin avec gravité. « Car des évanouissements dans le genre de celui qui vous avait terrassé sont toujours extrêmement dangereux, surtout pour une femme qui nourrit un bébé. »« Mais en ce cas, monsieur Augustin, vous m'avez peut-être bien sauvé la vie. » Je n'en sais rien, mais j'ai tout fait pour vous préserver d'un accident peut-être mortel. Oh, vous êtes vraiment bien bon, monsieur Augustin. Sans vous, qu'est-ce que je serais devenu? Ça va mieux? Ça me pique encore dans le nez, puis dans les yeux, mais enfin, c'est supportable. Je vous en remercie. Dans 5 minutes, vous ne vous apercevrez plus de rien. « Mon Dieu, quelle histoire !» s'écriait la nounou. Puis, saisie d'un brusque une crainte, elle demanda « Le petit est dans son berceau ?»« Oui, 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 rassurez-vous, » déclarait Shandcock. « Celui-là, les revenants ne l'ont pas emporté. Ils n'ont sans doute pas trouvé assez beau pour ça. »« Monsieur et madame, » interrogeait Anne, Est-ce qu'ils sont rentrés? Non, pas encore. Alors, il n'est pas tard. Oh, 23 heures à peine. 23 heures. Ah oui, oh, bah, c'est juste, reprenait Chantecoq. J'oubliais que vous êtes fâché avec le nouveau cadran. 23 heures, ça fait 11 heures du soir. Alors, émettait Anna, ils sont donc venus plus tôt que d'habitude? Qui ça? Interrogeait le limier. Ben, les revenants. Oh, reprenait Chantecoq en lançant un rapide coup d'œil à Armandine. Vous êtes bien sûr que ce sont des revenants? Mais que voulez-vous que ce soit? Ripostait la nourrice. Vous les avez vus? Oui, je les ai vus. Mais combien y en avait-il? Oh, je ne les ai pas comptés, mais ils étaient au moins une bonne demi-douzaine. Et quelle tête avaient-ils? Ils n'avaient pas de tête. Ils étaient enveloppés dans de grands draps blancs qu'ils agitaient avec leurs bras, qu'on ne voyait pas et qui étaient plus longs que des têtes de loup. Vous savez bien, Augustin, ces balais avec lesquels on enlève les toiles d'araignée. Non, mais je ne sais pas s'ils avaient des bras, déclarait le limier. Mais ils avaient sûrement des mains, puisqu'ils vous ont ligoté. Bon, non, c'est rien, mon pauvre Augustin. Aussitôt que je les ai vus m'entourer, danser autour de moi comme des canards vivants qu'on ferait sauter sur le feu dans une poêle à frire, je suis tombé faible et puis j'ai plus rien vu ni entendu de ce qui se passait autour de moi. C'est tout ce que je puis vous dire. Seulement j'ai bien soif. Alors vous seriez vraiment bien gentil si vous pouviez me donner un verre d'eau. Armandine, ordonnait Augustin. Mon oncle? Répliquait aussitôt le secrétaire. Alors, tu n'as pas compris? Quoi donc? Mais tu vois bien que cette pauvre âne meurt de soif. Je vais lui chercher un verre de vin. Ma foi, acceptait la nounou. Ça vaudra peut-être mieux que de l'eau. Je me sens pas bien solide. J'ai bien besoin d'être ravigoté. La fausse Armandine, qui paraissait être entièrement remise de sa frayeur, quitta la chambre. Ah, mon bon Augustin, reprenait la nounou, que je vous remercie encore. Mais vrai, c'est à se demander si je vais rester dans cette maison, car sûr qu'elle est hantée, et dans les maisons hantées, faut pas rire avec ça. Pourtant, objectait le détective d'un ton volontairement naïf, vous m'aviez dit qu'avec de l'eau bénite, on chassait les mauvais esprits. Vous m'aviez même ajouté que vous en aviez une bouteille et que vous alliez en répandre dans l'escalier. C'est ce que j'ai fait avant de me coucher, ripostait la nounou, qui semblait avoir réponse à tout. Seulement voilà, c'était pas de l'eau bénite. La fille de la mère Leporc, au lieu d'aller en chercher à l'église de Quiberon, a dû se contenter de me rapporter de l'eau de la fontaine. Ah oui, ça doit être cela, approuvait le limier, avec toutes les apparences d'une conviction sincère. Normandine revenait, portant sur un plateau une bouteille de vin et un verre. Chantecoq remplit le verre et, tout en tendant à la nounou, il lui dit « Allez, buvez. Pour le moment, cela vous confortera mieux que de l'eau même bénite. » Anne ne se le fit pas dire deux fois. En quelques lampées, elle vida son verre. Un autre, proposa le détective le plus sérieusement du monde. Oh non, ça suffit, refusait la nounou. Faut jamais abuser des bonnes choses. Maintenant, recommandait le faux Augustin, vous allez vous rendormir tranquillement. Nous allons attendre, pour nous coucher, ma nièce et moi, que nos patrons soient rentrés. Surtout, recommandait la nourrice, ne dites rien devant madame. Et tout en jetant un regard inquiet vers la porte enfoncée, elle ajouta: Mais comment allez-vous lui expliquer tous ces dégâts? Chantecoq répliquait: Oh, j'en ai pour 10 minutes à remettre tout cela en place. Armandine, reste auprès d'Anna, pendant que je vais chercher les outils nécessaires. Il s'enfuit pour revenir quelques minutes après avec un marteau, des petits clous, un pot de colle-forte et un pinceau qu'il avait découvert dans la buanderie à côté d'un établi de menuisier. Pendant qu'il se livrait avec adresse aux opérations nécessaires, Anne lui faisait observer. Vous auriez mieux fait de passer par la chambre de monsieur et de madame et par le cabinet de toilette. Le roi des détectives, avec un aplomb imperturbable, répliquait. Mais j'ai bien essayé, mais impossible. Pourquoi donc? La porte de la chambre de monsieur et madame était fermée à clef. Tandis que le limier lançait vers elle un regard oblique et attentif, Anne répliquait. Vous en êtes bien sûr? Absolument. Mais ça m'étonne, car jamais monsieur et madame ne ferment leur porte à clef quand ils s'en vont. Et ce soir, ils avaient fait une exception, déclarait Chantecoq. La nourrice, que ce débat semblait avoir quelque peu troublée, malgré son peu d'importance apparente, reprenait. C'est drôle tout de même. Chantecoq, tout en continuant à raccommoder le panneau, reprenait négligemment. Ben, sans doute aviez-vous fermé aussi la porte qui fait communiquer le cabinet de toilette avec votre chambre. Anne parut quelque peu interloquée par cette question. Elle hésitait à répondre. Après quelques secondes de réflexion, elle se décida à dire ma foi, je ne me rappelle pas. Mais c'est bien facile à vérifier, déclara Météore, qui s'enfuit vers la porte. La serrure est libre, fit-il, et le verrou n'a pas été poussé. Anne, gênée, tentait d'expliquer. Ah, je me souviens à présent. Madame m'avait recommandé, avant de sortir, de ne pas fermer cette porte, afin qu'en rentrant, elle pût venir embrasser celui qu'elle prend pour son petit Jackie. Ah, très bien, ponctua Chantecoq, tout s'éclaire. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous demande cela. Et puis, je me mêle de choses qui ne me regardent pas. Oh, ne dites pas cela. Mon bon Augustin, protestait la nourrice. L'enfant, réveillé par le bruit des voix et des coups de marteau, cependant très légers, que le roi des détectives frappait sur les pointes avec lesquelles il consolidait les voliges du panneau renfoncé, faisait entendre quelques cris. Voulez-vous me le passer? Demandait Anne à la fausse Armandine, car je ne me sens pas encore la force de me lever. Météore répliquait, oh, ne vous tourmentez pas, je vais m'en occuper. S'il a faim, objectait la nourrice, c'est pas vous qui allez pouvoir lui donner à téter. Oh oui, le fait est, reconnaissait Météore en étouffant une formidable envie de rire, que cela me serait assez difficile. Moi, je suis une vieille fille. Ne dites pas cela, s'écriait Anne. Vous êtes très jeune, au contraire. Ça se voit non seulement à votre visage, mais à vos mouvements. Et si vous vouliez vous marier, cela ne vous serait pas bien difficile. Oh, moi, le mariage, j'en pense pas, répliqua dédaigneusement Météore. Cela a son bon et son mauvais côté, philosophait la nounou. Mais faut pas cracher dessus tout de même. Vous, j'en suis sûr, vous feriez une très bonne ménagère, une excellente mère de famille, et je suis sûr que vous rendriez un homme très heureux. Météore, qui n'en pouvait plus, se gonfla les joues à se les faire éclater, et s'asseyant à côté du gosse qui s'était mis à brailler résolument, ce qui prouvait qu'il avait déjà récupéré quelque force, il se mit à le bercer, tout en lui chantonnant d'une voix de fausset. Fais dodo, colle à mon petit frère, fais dodo, t'auras du gâteau. Le petit se tut bientôt. Chantecoq avait terminé son travail. Maintenant, fit-il que tout est rentré dans l'ordre, nous allons vous dire bonsoir. C'est ça, mon bon Augustin. Tâchez de bien dormir. Et vous aussi, Amandine. Vous n'avez plus besoin de nous. Oh non, merci. Le détective et son secrétaire se retirèrent. Une fois sur le palier, Chantecoq dit à Météor : Descendons à la cuisine, j'ai l'idée que nous allons y faire d'intéressantes découvertes. Ils gagnèrent le sous-sol. Lorsqu'ils eurent pénétré dans la cuisine, le limier dit à son collaborateur : Allez, prépare-nous un bon café. Cela ne nous fera pas de mal, au contraire. Patron, affirmait Météor, je vais vous soigner cela. Tandis qu'il se livrait aux préparatifs méticuleux nécessités par la confection d'un mocha parfait, Chantecoq, qui avait allumé partout l'électricité, commençait ses investigations, tout en se livrant aux plus minutieuses recherches qui ne devaient laisser aucun coin ni recoin inexploré. Le roi des détectives raisonnait ainsi. Maintenant, j'en suis sûr, cette âne est de mèche avec les ravisseurs de Jackie, et les événements qui viennent de se dérouler s'enchaînent et s'expliquent avec une logique et une clarté remarquables. Ainsi que je l'avais prévu, nos adversaires, s'étant aperçus de la disparition de cette bague, qui risquait mieux que de les compromettre, mais de les trahir, ont résolu de mettre tout en œuvre pour la récupérer. Ayant su d'autre part, et certainement par cette âne, qui avait dû surprendre quelques propos tenus par son maître, que je me trouvais à Kerivette, sous un déguisement, en train de faire une enquête sur l'enlèvement du petit Jackie, ils auront résolu de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire, tout en retrouvant la bague, de se débarrasser à tout jamais de moi, et de Météor, par la même occasion. Pendant que nous étions en train de dîner ou de nous camoufler, Météor et moi, la vraie aura introduit dans la maison un, deux ou trois, peu importe leur nombre, de nos adversaires. Elle les aura cachés quelque part, probablement dans la penderie, qui est située au fond du cabinet de toilette. Pour se manifester, ils ont attendu que nous fussions descendus dans le sous-sol. Alors, au lieu de nous assassiner froidement, ce qui était évidemment presque aussi dangereux pour eux que pour nous, ils ont attendu que nous fussions engagés dans le couloir souterrain et convaincus que leur copain, qui devait être en train de rechercher la bague dans le conduit où ils avaient dû pénétrer à marée basse par la brèche du trou du souffleur, nous ferait en douce notre petite affaire, ils nous auront bouché notre retraite en replaçant devant l'entrée du conduit la plaque de tôle qu'ils avaient retrouvée dans la soute à charbon. Évidemment, c'était pas trop mal imaginé, mais ils avaient oublié que j'ai acquis, au cours de ma déjà longue carrière, une certaine expérience dans ce genre de sport qui s'appelle la police criminelle, et que, soit dit sans faux orgueil, si rusé et si dépourvu de scrupules que l'on puisse être, il faut tout de même compter un peu avec moi. Mais maintenant, que déduire de tout cela? Oh, c'est bien simple. Premièrement, ainsi que je l'avais flairé, Anne est la complice des ravisseurs. Deuxièmement, ceci, oh, je ne parle pas des deux qui trempent dans le trou du souffleur, sans doute pour l'éternité, mais des autres qu'il y a une heure ont cherché à nous couper la retraite, pour dérouter les soupçons que la Havraise pouvait nous inspirer, se sont livrés à cette opération de bâillonnement et de ligotage qui manquait un peu de soin et de finesse dans son exécution. Oh, ce n'est déjà pas mal, mais il y a encore mieux. Eh oui, beaucoup mieux. Maintenant, l'énigme se débrouille, le mystère s'éclaircit. Cet après-midi, au cours de ses confidences, Anne m'a raconté une histoire qui plus que jamais doit fixer mon attention, c'est-à-dire celle de cette famille d'Amérique, les Coldmedge, où elle avait été en place et dont la fille avait épousé le frère de ce Wilbright, le voisin et l'ami intime de la Chesnay. Résumons, enfin, c'est cela, résumons. Miss Colmage est amoureuse d'un acteur de cinéma. Par la volonté de ses parents, elle est contrainte d'épouser le Will Wright en question, un noceur, un paillard, qui la rend très malheureuse. Ce qui ne l'empêche pas, d'ailleurs, de lui faire un enfant. La jeune femme meurt d'une embolie ou d'autre chose, laissant un bébé qui a aujourd'hui 6 mois, c'est-à-dire l'âge du petit Jackie. Légalement, ce bébé doit hériter de la fortune des Colmage, qui probablement et même certainement doit être considérable. Supposons que cet enfant soit tombé gravement malade, qu'il ait été condamné par les médecins, qu'il n'ait plus que quelque temps à vivre comme celui qui dort en ce moment là-haut. Plus d'héritage. Et le papa, qui doit être au bout de son rouleau et compter pour vivre dans le présent et dans l'avenir, sur les picaillons de ses beaux-parents, a très bien pu se dire: Mais si mon fils vient à mourir, je suis à la côte, pas de ça. Alors, pourquoi n'aurait-il pas imaginé de substituer à son bébé, si mal en point, un superbe poupon tel que le petit Jackie? Autre recoupement, ce Will Bright a un frère qui est le voisin, l'ami, le commensal de la Chesnay, et auquel ceux-ci ont accordé toute leur confiance, leur amitié, leur estime. Et parbleu, cette histoire de revenant lancée par lui, ce procès-verbal qui ne doit exister que dans son imagination, est un faux qu'il a fabriqué de toutes pièces. Tout cela a été inventé pour servir de prétexte aux événements qui se sont déroulés depuis 48 heures à Quérivette, en vue de frapper de terreur les domestiques. Sauf Anne, bien entendu, et de les forcer à déguerpir. Tout s'explique ainsi, y compris le coup du passage secret qui aura été repéré par le White Bride d'ici. Tout, enfin tout. Il n'y a plus qu'à savoir qui a été vendue la bague que j'ai trouvée ce soir. On le saura demain avant midi. Donc, inutile de nous fatiguer en recherche, qui ne devrait plus rien de plus. Mon tableau de chasse est suffisant. Allons déguster l'excellent moka que ce précieux météore a dû nous distiller. Et, rentrant dans la cuisine, il lança à son secrétaire, qui était en train de faire passer son café: Mon garçon, je t'apporte une bonne nouvelle. Météore se gonfla les joues. Tu sais, poursuivait le roi des détectives, que je ne bluffe jamais. Oh, si je le sais. Eh bien, mon petit, martela le grand limier, je crois pouvoir t'affirmer qu'après-demain, tu pourras recommencer à pêcher la crevette.